Cours de métaphysique sur la personne par le Père Marie-Dominique Philippe, Rimont, le 7 février 84.
La personne humaine ayant une âme immortelle, peut-on dire que la mort pour elle n'est pas naturelle? Puisque le lien entre le corps et l'âme est substantiel, ou bien doit-on dire que le fait de ne pas mourir pour Adam et Ève était un charisme de la justice originelle? Ça, c'est une question théologique, hein, dire un charisme de la justice originelle. Eh bien oui, c'était un charisme de la justice originelle. Alors, ce qui est très curieux, vous voyez, c'est que à la fois la mort est une peine, point de vue théologique, hein, à la fois on doit dire que la mort est une peine qui provient des conséquences du péché originel. Et on doit dire, au point de vue philosophique, que la mort est naturelle. On est coincé. Hein. Au point de vue philosophique, vous ne pouvez pas dire que naturellement, l'homme est fait pour être immortel. Alors, le philosophe part d'un fait. Tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, jusque maintenant, ils meurent. Et je vois qu'en effet, de mémoire d'homme, tous les hommes sont morts. Comme les éléphants. J'entends le biologiste qui me dit il est naturel pour l'homme de mourir, parce que l'organisme s'use. Alors on meurt de maladie, on essaie de retarder le plus possible l'échéance, en faisant qu'on essaie de permettre que l'homme lutte de plus en plus contre les maladies, mais à un moment donné, les pneus s'usent, ils se dégonflent, et alors il meurt. Et si ils ne s'usent pas trop, ils éclatent à un moment donné. Il y a des éclatements, hein, du côté du cœur, il y a des éclatements de pneus. C'est qu'au fond, de fait, il y a une usure. Il y a une usure qui se fait, et cette usure qui se fait fait que, c'est vrai, l'homme meurt à un moment donné. Donc, c'est naturel. C'est naturel et c'est toujours violent. Parce qu'il y a ce point de vue de l'âme immortelle qui, elle, ne demande pas de mourir. La personne ne demande pas de mourir. Mais l'individu, oui. Là, j'aimerais bien la différence entre l'individu et la personne. C'est beaucoup plus juste. Je crois que l'individu meurt et la personne demande de ne pas mourir. Ce qui est pour ça que c'est toujours un peu dramatique pour une personne de mourir. C'est pas naturel du tout pour une personne humaine de mourir. Mais pour l'individu, oui. Je crois qu'on pourrait dire ça, vous voyez, c'est intéressant là, de regarder le point de vue différent de l'individu et de la personne, au niveau de la mort. Parce que la personne a quelque chose d'immortel, à cause de l'âme spirituelle, à cause de l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Et l'esprit ne demande pas de mourir. Mais l'esprit lié au corps, alors lui, est corruptible. Et donc il est naturel à un individu de mourir. Mais il est violent à la personne de mourir. Mais c'est pas commode. Hein. Vous voyez comment la personne humaine pose un problème tout à fait particulier. C'est l'horizon entre le monde immortel, le monde au-delà de la mort, et le monde. Et le monde corruptible. Il y a les deux. Il faut le reconnaître. Il faut, au point de vue théologique, reconnaître que c'était un charisme, une grâce particulière de la justice originelle, de ne pas mourir. Ce n'était pas naturel de ne pas mourir. C'était l'aide de Dieu. On ne peut pas dire plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la mort d'une personne. Et quelque chose de violent dans la mort d'une personne. Une personne demande de ne pas mourir. Alors, réfléchissez sur ce point de vue-là. toujours beaucoup intéressé d'entendre un biologiste demander, du reste. C'est toujours intéressant d'entendre un biologiste parler de la mort. Il parle de la mort comme la chose la plus naturelle qui soit. Il est normal que l'individu que nous sommes, au point de vue vivant, meure. Quand vous regardez la personne humaine et que vous essayez de comprendre la personne humaine, vous voyez que la mort a toujours quelque chose de violent. On ne peut pas considérer la mort comme une chose naturelle, au point de vue de la personne, au point de vue de l'esprit. Et je comprends très bien que ce n'est pas entièrement naturel. Alors, au point de vue de la foi, la mort est une conséquence du péché. Ce qui montre, vous voyez, que ce n'est pas entièrement naturel. Parce que vous mangez, c'est naturel. Dormir, c'est naturel, je ne dis pas que c'est une conséquence du péché. Qu'on doit dormir un peu plus, conséquence du péché. Ça, c'est sûr. Parce que je suis persuadé que si on avait tant de péché, on dormirait moins. On dormirait davantage son corps. Donc on dormirait moins. Donc dormir plus, c'est sûrement une conséquence du péché. Ça, c'est sûr. Et on le sent bien, du reste. On sent que de temps en temps, il y a une petite paresse qui est là. Hein. On sent très bien que si on n'avait plus de volonté, si on avait un cœur plus aimant, on se fatiguerait moins. Du moins, on sentirait moins la fatigue. On la dominerait plus. Conséquence du péché. Mais dormir n'est pas une conséquence du péché. Manger n'est pas une conséquence du péché. La composition de l'être, de l'esprit et de la matière n'est pas une conséquence du péché. C'est naturel. Mais c'est d'un naturel assez curieux. Puisque l'esprit par nature, par lui-même, au point de vue de son intelligence, demanderait de pouvoir être plus libre par rapport au sensible. Et la volonté, l'amour, assume le point de vue sensible et peut s'en servir. Mais le déséquilibre du sensible par rapport au spirituel, conséquence du péché. Comment se fait-il que je me laisse emporter par le point de vue sensible, alors que je suis un être spirituel? Alors, philosophiquement, je vois quelque chose de détraqué. Le monde cassé. C'est ça, Camus. Il y a un poids dans le sensible qui n'est pas normal, qui est très humiliant pour le point de vue spirituel. Et plus on est un être spirituel, plus c'est humiliant de voir ce poids du sensible. Je le constate. Je vois qu'il y a quelque chose de naturel, et puis il y a quelque chose qui n'est pas entièrement naturel. D'être lié au sensible, c'est naturel, mais d'être trop lié au sensible, ce n'est pas naturel. Et c'est pas commode de voir la frontière. Vous voyez, au fond, je m'aperçois de la complexité de l'être humain, et de la complexité de la personne humaine. Je crois que c'est ça qu'on constate. Ça, on le verra hein, quand on essaiera de voir. Alors, je vais continuer avec vous cette petite recherche. Je vois encore Max Scheler parce que ça intéresse beaucoup le Saint-Père. Alors, comme ça intéresse le Saint-Père, ça nous intéresse, n'est-ce pas? Et de comprendre, après ce que nous avions dit la dernière fois, à propos de Husserl, vous voyez comme c'est pas commode. Hein, et en même temps, c'est assez intéressant, Husserl. Sûrement quelqu'un qui vaut la peine d'être étudié, pas tout de suite, hein, vous avez d'autres choses à voir, mais c'est intéressant, Husserl est sûrement une position délicate, difficile, subtile, pleine de finesse. C'est un homme à dentelle, Husserl, sûrement, beaucoup plus dentelle que Descartes. Descartes, c'est le petit bourgeois qui ne veut pas être bourgeois. Alors c'est quelque chose d'assez gros, Descartes. Tandis qu'Husserl est beaucoup plus fin, et beaucoup plus subtil dans sa méthode. C'est pour ça que c'est plus délicat. On croit qu'Husserl va nous conduire au réalisme. Il ne nous conduira jamais au réalisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le dernier Husserl, qui est des choses assez étonnantes, le dernier Husserl. des choses sur la valeur qui sont très intéressantes à voir et qui nous font croire que par la valeur, on va retrouver la finalité. Oui, c'est là encore, hein, l'intentionnalité, l'existence, la valeur et la finalité. Ben, je crois que c'est ça qu'il faut étudier dans une seule, au point de vue philosophique. Voir que la valeur n'est pas la finalité. Que la valeur reste, du côté de l'intentionnalité, la recherche de la finalité. Alors on met la valeur. Comme du côté connaissance, l'intentionnalité ne nous fait pas revoir le jugement d'existence. Jamais. Alors, Max Scheler, la personne unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience, ça vous dit beaucoup de choses, hein, de l'expérience vécue. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne chez Max Scheler. Dans le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, qui se présente explicitement comme un nouvel essai de personnalisme, c'est ça qui est intéressant, c'est un nouvel essai de personnalisme. Toute la philosophie de Max Scheler est orientée vers la personne. Scheler affirme, on n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose, ou comme une substance, vous voyez, la chosification de la personne, c'est Max Scheler. Il ne faut pas l'oublier, on le dit couramment aujourd'hui. Dans l'amour, est-ce que vous me considérez comme une personne ou comme une chose? On utilise une chose, hein? On n'utilise pas une personne, on l'aime. Mais très vite, on utilise. Vous voyez, la sensibilité et la passion fait qu'on utilise une personne, et donc on ne l'aime plus. Et ce là on sent très bien que l'amour diminue. Utiliser un être pour son plaisir, c'est le considérer comme une chose. On dirait encore comme un objet. Oui, l'objet est la source de tout. Alors que la personne comme telle est un absolu. Donc on ne l'utilise pas, on l'aime. Tandis qu'utiliser une personne pour son plaisir, c'est justement diminuer le point de vue de la personne. On n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose ou comme une substance qui posséderait des pouvoirs ou des puissances quelconques, parmi lesquelles se trouverait, entre autres, un pouvoir ou une puissance rationnelle. En réalité, c'est ça qui est intéressant, en réalité, la personne est une et l'unité immédiatement co-vécu, du vivre par expérience vécue. Je suis sûr que vous voyez très bien ce que c'est. Alors je reprends, parce que ça vaut la peine d'essayer de comprendre ce qu'il dit ici. La personne est l'unité immédiatement co-vécue, du vivre par expérience vécue. Donc c'est du vivre au carré, quoi, tout simplement, l'expérience vécue. Vous vivez vraiment au niveau personnel que quand c'est une expérience vécue. Vous voyez l'intentionnalité. L'expérience vécue, c'est l'intentionnalité. Alors, le co-vécu, c'est que la personne n'est vécue qu'en relation avec une autre. C'est ça le point de vue de la communication. Donc, la personne est l'unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue. Non point seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu et hors de lui. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, ce refus de Max Scheler de poser quelque chose en dehors de cette relation de co-vécu, c'est ça, co-vécu. Vous comprenez bien. Il y a une personne et une personne. La double relation, l'intentionnalité husserlienne, nous la retrouvons ici, dans le co-vécu. C'est que le vécu ne peut être que dans la relation mutuelle. S'il n'y a pas de relation mutuelle, il n'y a pas de vécu au niveau personne. c'est le co-véhicule qui est le point de vue de la personne. Alors, vous voyez, c'est à partir de là que Nedoncel dira, par exemple, que la personne, c'est la communication. La personne n'est que dans la relation mutuelle. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est le premier moment où on voit ça. C'est Max Scheler qui nous dit ça. Et alors, l'interdiction, et c'est ça qui est intéressant, l'interdiction de poser un au-delà. Alors que chez proprement Husserl, il y avait comme un au-delà. Je vous l'avais dit, c'est l'analogue du transcendantal. Et on avait essayé de comprendre que justement il y avait un au-delà. Max Scheler semble, je dis bien, semble s'opposer à cela. Parce que si vous mettez un au-delà, vous mettez un au-delà qui n'est plus le vécu. C'est bien ce qu'il nous dit. Et c'est bien ça qu'il faut essayer de saisir. En réalité, la personne est l'unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue, non point seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu et hors de lui. Non point seulement. Autrement dit, faisons attention, il n'exclut pas. Mais l'homme, la personne humaine qui serait conçue comme un sujet. Donc, c'est ni une chose ni un sujet. Le sujet serait justement l'au-delà. Vous voyez, c'est la grande idée de la substance. Quand je dis que la personne est une substance, je veux dire qu'elle est au-delà de l'opération. Alors, Max Scheler a très peur. L'au-delà de l'opération, attention. L'au-delà du vécu, attention. Ça ne peut pas être un au-delà du vécu. Et cependant, je crois qu'il y aura toujours un certain au-delà du vécu. La personne existe dans ses différents actes. Ça, c'est ce que le Saint-Père prendra très fort. Hein. Après, on dira un petit mot sur la position du pape, hein, c'est intéressant. En dernier lieu, hein, puisque c'est en dernier lieu. Alors, la personne existe dans ses différents actes. Elle est tout entière présente en chacun. Elle est ce qui les unifie et les rend concrets. Elle est ce qui donne un sens. Vous voyez, vous retrouvez toujours la même chose, la condition sine qua non. La condition sine qua non de toutes mes opérations, de toute l'unité de mes opérations. Elle n'est pas source, elle est condition sine qua non. Vous retrouvez donc quelque chose de Kant. C'est ça qui m'intéresse, la trace de Kant. La trace de Kant dans Husserl, c'était très net. Hein. À la place de regarder la source, à la place de regarder la cause, je regarde la condition sine qua non. Et c'est, je crois, ce que Kant a saisi par rapport au transcendantal. Les transcendentaux, les formes transcendantales de Kant, c'est la condition sine qua non. La condition sine qua non pour l'expérience. Bien, vous la retrouvez au niveau de la personne chez Husserl et vous la retrouvez ici. C'est ça qui est intéressant. Elle est ce qui les unifie, les rend concrets, elle est ce qui donne un sens. La définition essentielle que Scheler donne de la personne est la suivante. La personne est l'unité d'existence concrète, elle-même essentielle, essentielle, d'actes, d'essence, de divers sortes, unité qui, en soi, précède toutes les différences d'actes, essentielle, singulièrement, la différence entre perception extérieure et perception interne, vouloir extérieur et vouloir interne, perception affective et amour et haine, extérieur et interne. Donc, vous voyez, c'est comme très curieux. C'est ce qui fait l'unité de l'interne et de l'externe. L'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers. C'est le fondement, condition sine qua non, de l'unité de nos expériences internes et externes. Je crois que c'est cela, l'intuition de cela. Il y a quelque chose de juste, il faut bien comprendre. L'unité fondamentale des deux. La personne humaine, c'est très vrai, dès que vous la regardez d'une façon phénoménologique, vous voyez tout de suite qu'il y a le point de vue externe et le point de vue interne. Il y a le moi visible et le moi invisible. Vous avez les deux. Vous avez des opérations de vie commune et vous avez des opérations de vie interne. Vos opérations de vie commune, c'est ce qu'on voit. C'est ça les opérations de vie commune. Vous êtes assis maintenant, en étant assis, vous êtes la vie commune. Parce que ça, c'est visible. Vous êtes présent à tel exercice, vie commune. Vous êtes absent de tel exercice, vie commune. Présence et absence, des choses visibles. Et la vie intérieure, c'est chose. Je peux vivre les exercices de vie commune en étant complètement absent. Je peux vivre les exercices de vie commune en étant totalement présent. Du point de vue interne et externe. Ce qu'on disait d'une façon habituelle et ancienne, c'est toujours intéressant de voir que l'ancien est toujours présent dans le moderne, la distinction entre les intentions de vie que personne ne peut voir. Vous ne pouvez pas juger mes intentions. Et puis, les choses visibles. Ne jugez pas selon les apparences. Donc, ne jugez pas selon les exercices visibles de vie commune. Juger en réalité, c'est l'intention. Dieu juge selon les intentions. C'est très important de comprendre ça. Eh bien, de fait, Max Scheler comprend que la personne, c'est nécessairement l'au-delà de l'intérieur et de l'extérieur. Ce texte-là est très, très significatif. La personne est l'unité d'existence concrète. Elle-même, essentielle, il faut bien voir. Ce n'est pas l'essentiel, c'est l'essentiel. Vous distinguez les deux, l'existentiel et l'existentiel. Il faut distinguer l'existentiel et l'existentiel. Il faut distinguer l'essentiel et l'essentiel. Alors, distinguez bien, ça comprenez bien la distinction entre les deux. Cherchez, vous n'arrivez pas à trouver. Elle-même, essentielle, d'arbre, d'essence, de diverses sortes. C'est ça l'essentiel. Unité qui, en soi, précède toutes les différences d'arbre essentiel, singulièrement, la différence entre perception extérieure et perception interne. Vouloir extérieur et vouloir interne. Perception affective et amour et haine extérieure et interne, etc. L'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers. Donc l'être de la personne fonde. Alors vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Il y a quand même une quasi-contradiction. Parce que si vous dites que l'être de la personne fonde, c'est donc l'au-delà. Or, il a dit précédemment, je n'étais pas au-delà. Et je crois que c'est ça qui va faire la tension profonde dans toute la position de Max Scheler. Autrement dit, Max Scheler montre que du côté intentionnel, du côté phénoménologique, je veux dire, on n'arrive pas à saisir exactement ce que c'est que la personne. C'est bien l'au-delà du visible et de l'invisible. C'est bien l'au-delà d'extérieur et d'intérieur. C'est le fondement de cela. Et cependant, c'est dans le vécu. Alors, le vécu, il est à la fois interne et externe. Vous vivez au niveau intention, vous vivez au niveau externe. C'est donc le convécu. Mais c'est en même temps ce qui fonde cela. Mais ce n'est pas uniquement cela. Ce qui fonde. C'est pas commode. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit très bien que la personne ne peut pas se définir uniquement au niveau de l'intentionnalité. Je crois que c'est ça. C'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus radical que l'intentionnalité. Il est donc clair que la personne, c'est pas très clair, mais ça fait rien. Il est donc clair que la personne ne peut se réduire ni à l'X d'un simple point de départ d'acte. L'X, c'est ça. Hein, l'X, c'est ce sujet. C'est très intéressant, ça, parce qu'alors, nous avons, à partir de ce moment-là, toute la conception de la substance telle qu'elle a été vécue dans la scolastique décadente. La substance vécue dans la scolastique décadente, c'est le sujet. Alors, le sujet, c'est ce qui est déterminé par les attributs. En lui-même, il est indéterminé. Oui, on a oublié de regarder la substance comme source. Et je crois que tout le problème est là. Quand on regarde la substance comme source, une source est source des déterminations. Le sujet, c'est ce qui pâtit et qui reçoit les déterminations. Donc le sujet est indéterminé, alors que la source est source de toutes les déterminations. Très très différent. Or, progressivement, la scolastique décadente n'a plus regardé la substance comme sujet. Et comme on définit la personne comme substance, on la définit comme sujet. Alors vous voyez l'opposition qu'il y a à cette perspective de la substance vue comme sujet, c'est-à-dire comme X. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. L'intentionnalité, il ne faut pas l'oublier, hein, qu'avec le point de vue de l'intentionnalité, Brentano, il y a eu tout un retour à la scolastique. C'est sûr, Brentano a fait un lien entre la philosophie moderne et la scolastique, par l'intentionnalité. C'est l'intérêt de Brentano. C'est très curieux, Brentano, il ne faut pas l'oublier. Un drôle de dominicain qui est passé de l'autre côté de la barrière. Alors, il avait quand même une formation scolastique. Et il avait donc le souci de montrer qu'il y avait là quelque chose de grand par l'intentionnalité. Et c'est ça qui a beaucoup marqué André Mural, l'intentionnalité. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est intéressant, c'est vrai que c'est l'intentionnalité qui fait le lien entre la scolastique et la pensée moderne de la phénoménologie. Alors, il faut bien voir sous-jacent le point de vue scolastique. On ne comprend rien à la réaction profonde d'un Max Scheler par rapport à la scolastique si on ne voit pas ça. Si on ne voit pas que la substance était conçue comme un sujet, le sujet, c'est X. Parce que c'est l'indéterminé. Alors que la substance, c'est le déterminé. Substance première, selon les catégories, ce qui est au-delà de toutes les déterminations et ce donc qui n'implique aucune détermination. C'est la substance première, selon les catégories. Et alors, c'est ça qui a dominé. C'est cet aspect de la substance première qui a dominé. Donc, l'indéterminé. Et si vous prenez la personne comme l'indéterminé, c'est juste l'inverse. Puisque la personne est sujet de toutes les déterminations. Elle n'est pas. Puisque la personne est source de toutes les déterminations. Et je crois que c'est cette idée-là, vous voyez, dans laquelle Max Scheler réagit, et il a raison. Vous voyez? C'est pour ça que là, on assiste à la critique véhémente d'une scolastique décadente qui ne nous disait plus rien sur la personne, puisque c'était le sujet indéterminé. On commence à comprendre pourquoi je réagis violemment au point de vue métaphysique contre la substance sujet, et qu'il faut reprendre la substance comme source de toutes les déterminations. Au-delà des déterminants, mais source de toutes les déterminations. Parce que c'est tout à fait différent. Alors, je continue, parce que c'est important de saisir cela. Donc, il est clair que la personne ne peut se réduire ni à l'X d'un simple point de départ d'acte, c'est cité ça, donc c'est bien lui, ni à une sorte quelconque de simple corrélation ou entrecroisement d'actes. Oui, voilà le dilemme. Elle est ça, le convécu. Elle n'est donc, il y a un, il y a deux. Elle n'est ni simplement le convécu, l'entrelacement d'actes, la communication. La personne, ce n'est pas simplement hein, enseigner et vous recevoir. Votre personne, ce n'est pas simplement recevoir. Il y a des réactions violentes, tant mieux. Convécu, c'est mieux vécu, n'est-ce pas? Alors, c'est vécu de cette manière-là. Eh bien, la personne, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement ça. Donc, la personne, c'est l'au-delà des deux. Vous voyez l'induction hein? C'est intéressant de voir ça. Il y a une espèce d'induction de la personne. Je crois qu'il y a ça, alors qu'il n'y a pas d'induction de la personne. C'est un peu. Mais c'est intéressant à saisir, ce point de vue, cette recherche. Hein. Donc, il est donc clair que la personne ne peut se réduire ni à l'X d'une simple point de départ d'acte, le sujet, ni à une sorte quelconque de simple corrélation ou entrecroisement d'actes. Comme le soutiennent généralement certains tenants d'une conception actualiste de la personne. C'est intéressant, la conception actualiste de la personne. La personne est l'acte, hein. Vous voyez bien d'où ça vient. faut voir ça, faut voir le sous-jacent sur lequel le Saint-Père va travailler. Alors c'est ça le sous-jacent. Donc, comme le soutiennent généralement certains tenants d'une conception actualiste de la personne, qui prétendent comprendre la personne à partir de son faire. Ex operari sequitur esse. Non, insiste Scheler. La personne n'est pas un point de départ, vide à l'origine des actes. Donc c'est le sujet. Le sujet est vide. Vide des actes, puisqu'il est déterminé par les actes. Donc la personne n'est pas ce sujet. Elle n'est pas substance. Vous voyez bien. Comment on va rejeter la substance? Si la substance est le sujet, non, la personne n'est pas substance. Elle n'est pas ça. La personne n'est pas un point de départ vide à l'origine des actes, mais bien l'être concret, sans lequel, lorsqu'on parle d'un acte quelconque, on ne saurait jamais en atteindre l'essence pleine et adéquate. Ça sera exactement le point de vue du Saint-Père. C'est intéressant à voir. Je ne peux pas saisir la personne sans l'acte. Je ne peux pas saisir l'acte sans la personne. C'est vrai, au point de vue existentiel ou au point de vue existentiel. C'est vrai, les deux sont liés. Donc la personne n'est pas un point de départ vide à l'origine des actes, mais bien l'être concret sans lequel, lorsqu'on parle d'un acte quelconque, on ne saurait jamais en atteindre l'essence pleine et adéquate. Ce n'est que par leur appartenance à l'essence de telle ou telle personne individuelle que les actes se concrétisent et passent de l'état d'essentialité abstraite à l'état d'essentialité concrète. L'état de la puissance et de la fin. La philosophie des deux états. Alors, la personne, c'est rien d'abstrait, c'est ce qu'il y a de plus concret. Oui, le Dasein, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est l'être dans sa plénitude. C'est l'être existentiel, c'est la personne. Alors, elle est liée à tout ce rayonnement de ses activités, de ses diverses activités. Si la personne n'existe que dans l'accomplissement de ses actes, elle n'existe que dans l'accomplissement de ses actes. Si elle est tout entière présente en chacun de ses actes, pleinement concret, et varie tout entière en chacun d'eux et par eux, cela ne veut pas dire que son être même naisse d'aucun de ses actes, ni s'altère comme une chose dans le temps. Passer entre les deux, toujours passer entre les deux. La dialectique entre les deux. Je crois que c'est vraiment les deux aspects qu'il veut dépasser. Ce n'est ni l'X, ce n'est ni le co-vécu. Le co-vécu ne peut pas être compris sans la personne. Donc il faut nécessairement que la personne soit présente. Donc, si la personne n'existe que dans l'accomplissement de ses actes, si elle est tout entière présente en chacun de ses actes pleinement concrets, et varie tout entier en chacun d'eux et par eux. Cela ne veut pas dire, je reviens vite, cela ne veut pas dire que son être même naisse d'aucun de ses actes. Forcément. Operari sequitur esse, vous voyez, il connaît la scolastique. Le grand principe. Ex operari sequitur esse. Ex operari sequitur esse. Et alors, est-ce que operari sequitur esse? Non, il dit ex operari sequitur esse, cogito ergo sum. Je suis, donc je pense. Ici, je pense, donc je suis. Le renversement de la scolastique. C'est très curieux. Il y a un renversement. Et ici, il montre que ce renversement, il faut faire attention. Parce que c'est autre chose. Je ne peux pas dire que son être même naisse d'aucun de ses actes, ni s'altère comme une chose dans le temps. La personne ne requiert pas davantage un être durable qui se conserverait tel à travers la succession des actes pour maintenir l'identité de la personne individuelle, le fantôme de la substance chosifiée, qui durerait au-delà de tous les actes. Pour Scheller, l'identité consiste uniquement ici dans l'orientation qualitative de ce simple devenir autre lui-même, de ce simple devenir autre lui-même. La personne ne vit ni dans le temps phénoménal, tel qu'il est donné immédiatement dans le fluxus des processus de l'âme, intérieurement perçu, ni dans le temps objectif des physiciens. Et puisque la personne ne réalise son existence que dans le vivre par expérience vécue, de ces expériences vécues possibles, c'est un non-sens que de prétendre la saisir dans ces expériences vécues telles qu'elles se vivent simplement. Tant que nous regardons du côté de ces prétendues expériences vécues, au lieu de considérer le vivre par expérience vécue de ces expériences vécues, la personne nous reste totalement inaccessible. Vous avez bien vu, j'espère. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas saisir la personne uniquement dans l'expérience vécue. Et pourtant, vous ne pouvez pas séparer la personne de l'expérience vécue. Donc l'expérience vécue sera le seul métaxu par où je pourrai atteindre la personne. Mais ce n'est pas elle qui est la personne. Oui, je vous dis, comme une induction. Il y a ça. C'est pas une induction, mais c'est tout à fait comme une induction. Parce que vous diriez exactement ça. Il y a la diversité des expériences et il y a l'unité de la personne. Il y a l'identité de la personne à l'intérieur de la multiplicité de vos expériences. Donc, je dois saisir la personne à l'intérieur de cette diversité de mes opérations, de mon expérience vécue, vivre par expérience vécue, de ces expériences vécues. La personne nous reste totalement inaccessible. Vouloir la saisir là, non. Et pourtant, elle n'est pas l'au-delà de lui. On est pris par l'alternative des deux. Et je ne peux pas abandonner les deux extrêmes. Elle est vraiment quelque chose qui est plus que l'expérience vécue. Parce que la diversité des expériences vécues, ça passe. Elle est plus que ça. Et pourtant, elle est à l'intérieur de ça. On ne peut pas la séparer. Le mot « personne » est un terme absolu et non relatif, comme le « je » qui se réfère toujours à un « tu » d'une part et au monde extérieur d'autre part. À la différence du « je », ce qu'on vise mentalement en disant « personne » présente un caractère de totalité qui se suffit à soi-même. Là, c'est très intéressant pour montrer la différence avec le point de vue psychologique. La personne n'est pas au niveau psychologique. Le « je » est psychologique. Le « je » appelle le « tu ». Et le « tu » appelle le « je ». Ce n'est pas à ce niveau-là. C'est un niveau plus profond. La personne ne peut pas être saisie au niveau psychologique. Elle est une totalité. Vous voyez, alors, c'est très curieux, hein, vous l'avez remarqué, la permanence la plus grande de la personne à travers ses différentes conceptions, c'est toujours le tout. C'est la totalité. Alors ici, vous voyez, c'est là où on voit très bien comme c'est difficile dans une perspective théologique de distinguer le principe et le tout, de distinguer le principe et le pos. Hein. Nous nous distinguons avec l'aristotélisme assez facilement le tiesti et le pos. Assez facilement. Ici, comme c'est difficile, on a l'impression qu'on veut saisir la personne comme une source, comme un principe. On voit bien le dépassement, puis alors on dit non, totalité. La totalité n'est pas un principe. La totalité, c'est un pos. Alors là, c'est une coupe mal taillée, on sent bien ça, c'est la difficulté de saisir les deux. C'est intéressant parce que c'est vraiment un désir de saisir la personne dans son absolu, au-delà du point de vue psychologique. Donc, à la différence du je, ce qu'on vise mentalement en disant personne présente un caractère de totalité qui se suffit à soi-même. Scheller entend par personne une réalité qui est pleinement indifférenciée par rapport aux oppositions je-tu. C'est l'au-delà du psychologique. Psychique. Oui, psy, oui, le je-tu, c'est psychique, psychique. Le je, monde extérieur. C'est au niveau de la conscience psychologique, ça. Et la personne est au-delà de la conscience psychologique. La personne peut percevoir son je comme elle perçoit son corps propre, le monde extérieur. Mais elle ne saurait être pour elle-même objet de représentation ou de perception, ni pour soi, ni pour autrui. Elle n'est pas objet de perception. Donc elle est au-delà de la perception. Elle est au-delà du point de vue psychologique. C'est intéressant, si vous en bien. La personne ne peut se dire que métaphysiquement. Ben, il le montre, hein, il le dit, il ne dit pas ce que c'est, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la métaphysique, mais il montre que ça ne peut être saisi qu'au-delà de l'intentionnalité, qu'au-delà du point de vue psychologique. Alors vous retrouvez quelque chose, vous voyez, de semblable à Husserl, c'est bien évident, mais ce n'est pas entièrement Husserl. Le quelque chose de semblable, c'est que Husserl disait qu'il y avait l'intentionnalité de, qui est psychologique, et l'intentionnalité pure, qui est au-delà du psychologique. Vous retrouvez quelque chose de semblable. Vous voulez avoir un méta-psychologique, un méta-vécu, c'est la personne. En d'autres termes, ce qui appartient à l'essence de la personne, c'est de n'exister et de ne vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelle. Ce qui appartient à l'essence de la personne, c'est lui qui parle de l'essence de la personne, c'est de n'exister et de ne vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelle. Par définition même, elle ne peut donc être objet. La personne est au-delà de l'objet. Mais par définition, elle n'est donc ni objet ni sujet. Elle n'est pas sujet, elle n'est pas objet. Elle n'est pas dans l'intentionnel pur. Elle est un au-delà de l'intentionnel, puisque c'est elle qui permet l'intentionnalité. La condition sine qua non pour qu'il y ait intentionnalité. Donc elle est au-delà de l'objet sujet. Alors qu'est-ce que c'est qu'au-delà de l'objet sujet? Nous disons l'être, nous disons substance, nous disons ce qui subsiste. Nous disons que c'est quelque chose qui justement a ce caractère particulier, mais pour lui, comme c'est difficile. Puisque la substance, c'est le sujet, donc ça ne peut pas être ça. J'ai rayé ce point de vue-là. On raye ce point de vue-là. Et on raye maintenant l'objet, qui est l'intentionnalité pure. Alors vous voyez, comme on est coincé. Alors ça, c'est intéressant. Je crois que c'est ça que le Saint-Père a compris, l'intérêt d'un appel à l'ontologie. Vous êtes coincé par la personne. Et par la personne, vous êtes obligé de redécouvrir l'ontologie. Oui, la coupe, hein, entre le point de vue du sujet et le point de vue de l'objet doit être dépassée. Par définition même, elle ne peut donc être objet. Un instant. Quels sont pour Scheller les rapports de la personne et de la conscience? Si l'on entend par conscience tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne, il faut alors définir la personne et ses actes comme une existence supraconsciente, en face de laquelle les phénomènes de conscience eux-mêmes se divisent de leur côté en phénomènes superconscients et subconscients. Mais si l'on désigne par conscience tout ce qui est conscience de quelque chose, et si l'on entend par conscience de quelque chose sans rien présupposer concernant le fondement de cette conscience, tous les actes intentionnels orientés et tirant leur sens de cette intentionnalité, alors on est en mesure et en droit de définir la personne comme la conscience considérée, comme la conscience concrète de. Comme c'est difficile, hein? La personne, elle est dans cette conscience. Mais d'autre part, elle est au-delà de cette conscience. La conscience de soi et la conscience de sa valeur propre ne suffisent pas pour qu'il y ait personne. Et le simple fait d'être homme en tant qu'homme ne suffit pas non plus à déterminer le cercle des essences qui peuvent être tenues pour des personnes. En réalité, ce n'est qu'à partir d'un certain niveau d'existence humaine que le concept de personne trouve son application. Oui, je reprends l'existence. Un certain niveau d'existence humaine que le concept de personne trouve son application. Le lieu où éclate à nos yeux l'essence de la personne ne doit pas être cherché dans l'homme en général, mais dans une certaine sorte d'homme. L'homme concret. Pour être une personne, l'homme doit être saint d'esprit et avoir atteint un certain niveau de développement. Un petit enfant présente les phénomènes de l'égoïté, de l'animation, de la conscience de soi. Cela ne suffit pas à faire de lui une personne morale. En troisième lieu, pour être une personne, l'homme doit avoir acquis la domination sur son corps propre et se sentir, se vouloir, se vivre lui-même immédiatement comme le maître de son corps propre. Enfin, il faut distinguer la façon la plus rigoureuse l'idée de personne de toutes les idées fondées sur les phénomènes d'expérience vécue, comme celui d'âme-substance ou de caractère. La notion de caractère, entendant par là les dispositions durables d'une personne, dispositions volontaires, spirituelles, intellectuelles, etc., n'a rien à voir avec l'idée de personne. Tout ce qu'enseigne la psychiatrie